Ouvrons ensemble la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 21 à 39. Marc, chapitre 1, versets 21 à 39. Il nous parle de Jésus. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme et dans une convulsion et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qui est ceci ? » Une nouvelle doctrine donnée avec autorité, il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André, la belle-mère de Simon, était couchée. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui saisissant la main, la fièvre la quitta et elle se mit à le servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissa pas les démons parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti ». Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et en chassant les démons. Amen. Ce qui va nous intéresser ce soir, ce n'est pas tous ces faits. C'est comment y arriver. Parce qu'on pourrait s'arrêter et dire, voilà, il faut chasser les démons, il faut ceci, il faut cela. Soyons sages, faisons ce que Dieu nous demande, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Là où ils en ont, il faut les chasser. Mais le but pour nous, ce n'est pas d'aller chercher les démons pour les chasser. Ce qui doit nous intéresser, c'est par quelle autorité et comment Jésus faisait tout cela. Puisqu'il nous a appelés à suivre ses pas, il y a quelque chose qui ressort de très particulier, c'est qu'il nous est dit au verset 35, « Vers le matin, pendant qu'il se faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. » Jésus prend du temps dans la prière. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'un jardin cultivé. D'un jardin dans lequel le Seigneur nous appelle. Le jardin de la prière, c'est quelque chose dans lequel Dieu attend que nous soyons chacun présents et que chacun puisse cultiver son jardin de prière. Alors, vous allez mieux comprendre ma pensée. Souvent dans la parole de Dieu, nous voyons que Jésus se ramenait ses disciples dans le jardin pour prier. C'était un lieu paisible, c'était un lieu dans lequel Jésus aimait se retrouver. Nous avons chacun de nous besoin d'avoir un lieu, un espace, un endroit où on peut élever notre voix et ce temps que nous dédions à la prière, c'est comme si on prenait soin d'un jardin spirituel dans lequel le Seigneur nous invite à faire une certaine œuvre. Et le fruit qui ressort de ce jardin, c'est l'action de la puissance de Dieu. Tout ce qui ressort dans le ministère de Jésus ressort parce qu'il passait du temps dans ce jardin de prière. Dans ce moment où le Seigneur passait avec un cœur à cœur avec Dieu le Père, là, il bâtissait, il préparait, il organisait les actions qu'il allait mener. Toutes ces actions, le Seigneur nous dit, vous ferez encore des choses plus grandes. Mais alors, il faut se dire pourquoi on n'y est pas. Peut-être parce qu'on ne prend pas suffisamment de temps dans notre lieu de prière, dans notre jardin de prière. C'est quelque chose qui devrait faire partie de notre vie. Alors, j'ai pris quelques exemples très simples. Vous connaissez l'histoire de Daniel, chapitre 6, les versets 4 et 5, on va pas lire tout le chapitre. Il dit la parole de Dieu, Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune erreur parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Mais cela était le fruit de quelque chose qui ne venait pas de lui, c'était l'action de Dieu, la présence de Dieu dans sa vie. D'ailleurs, au verset 11 et 12, on va lire « Lorsque Daniel sut que le décret était signé, puisque le roi avait émis un décret sur l'impulsion de ces hommes qui voulaient finalement trouver un moyen d'accuser Daniel et qui ne prennent pas de responsabilité. Pourquoi ? Parce que comme Daniel était droit, ils n'auraient pas pu triompher. Ils préféraient quelqu'un avec lequel la corruption, ça pouvait aller, ça pouvait venir. Mais Daniel n'était pas ce type de personne. Pourquoi ? Parce qu'il était droit. Pourquoi ? Parce qu'il avait une vie de prière, parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il respectait la parole de Dieu. D'ailleurs, versets 11 et 12, lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait Dieu, son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui suppliait et invoquait son Dieu. Deux choses ressortent de cela. C'est la première chose, c'est que Daniel était un homme de prière, était un homme qui avait pris vraiment à cœur cette, non pas une habitude, mais cette nécessité pour lui, cette exigence pour lui d'entretenir sa vie spirituelle en ayant des moments de prière. Pour certains, ça peut être trois, pour d'autres, ça peut être deux, pour d'autres, ça peut être quatre. Ce n'est pas la question du nombre. On n'est pas en train de fixer des horaires de prière. Ce n'est pas ça, parce que là, on tomberait dans quelque chose de religieux et non pas dans une foi vivante. La parole de Dieu nous dit que nous pouvons prier sans cesse, n'est-ce pas ? Et l'apôtre Paul dit « Je veux que tous les hommes prient ». Bien évidemment, les femmes aussi. Mais l'idée, c'est que nous ayons véritablement, c'est un souffle de vie. Et c'est comme si, finalement, comme celui qui aime son jardin, qui rentre dans son jardin et qui en prend soin, parce qu'il veut que tout soit parfait. Il arrose ce qu'il faut arroser, il arrache les herbes qu'il faut enlever, il plante ce qu'il faut planter, parce que ce jardin, pour lui, c'est son cœur, c'est sa manière d'être, c'est sa manière de s'exprimer. C'est là aussi qu'il trouve la paix dans son cœur, c'est là qu'il peut réfléchir à comment résoudre le problème. Daniel avait des grandes responsabilités, il avait besoin de chercher la sagesse de Dieu, il avait besoin de chercher le discernement de la part de Dieu. Pour être ce homme dont la parole de Dieu nous parle, il avait besoin de quelque chose de supérieur. Et pour être quelque chose de supérieur, il faut aller très haut. Et nous aussi, nous avons un cœur favorable de la part de Dieu qui nous dit « Venez à moi ». On ne peut pas se passer. On ne peut pas se passer du secours de Dieu. On ne peut pas se passer de l'aide de Dieu. Mais si Dieu connaît ce jardin de prière qui est le nôtre, croyez-moi, l'ennemi le connaît aussi. D'ailleurs, si vous faites bien attention, ces hommes sont venus au moment où ils savaient que Daniel allait prier. Parce que Daniel, il n'a rien changé à ses habitudes. Tout va bien, tout va bien, tout va mal, tout va mal. J'ai mes temps de prière, j'ai mes temps de relations personnelles avec Dieu, j'ai mes temps de ressourcement. Et Daniel, il n'allait pas changer quoi que ce soit parce qu'il y avait des règles, parce que les hommes avaient voulu essayer de le, à quelque part, de lui tendre un piège. Il avait pris un engagement. C'est quelque chose de fort et personnel. On va prendre l'exemple par excellence. Jean chapitre 18, versets 1 et 2. L'exemple par excellence est Jésus. Regardez ce qu'il dit ce texte de l'évangile de Jean. Chapitre 18, versets 1 et 2. Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté du ravin de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, il vient là pour trahir Jésus. Mais il savait où trouver Jésus. Est-ce que l'ennemi sait où est votre jardin? Est-ce qu'il sait qu'il va vous trouver dans votre jardin de prière, où il se dit, bon, il y a une chance sur quatre de le trouver dans la prière? Une chance sur quatre, ben écoute, on va voir peut-être ailleurs. Parce que c'est comme une sur quatre, c'est quand même pas fortiche. Mais là, il n'y avait pas de doute. Judas, il y est allé à coup sûr. Il savait où il aurait trouvé Jésus. Et frères et sœurs, que ce soit ceux qui marchent avec le Seigneur, mais que ce soit aussi l'ennemi, devrait savoir que rien ne nous empêche d'aller dans notre jardin de prière. Que rien ne t'empêche d'aller dans la présence du Seigneur et finalement de vivre quelque chose de particulier, parce que le Seigneur, c'est là qu'il va préparer ce qui va suivre. Nous, parfois, on fait l'erreur de venir à la réunion de prière parce que là, nous allons prier pour que quelque chose se passe. Mais en réalité, si on avait préparé et si on avait pensé à prendre du temps dans le jardin personnel, dans notre prière personnelle, là où j'ai tout le temps que je veux, est-ce que je peux passer une heure avec le Seigneur? 2 heures? 3 heures? 5 heures? 10 heures? 24 heures? Une semaine? Personne ne peut me l'empêcher, non? Je suis dans mon jardin personnel. Mais si je viens là, là, j'ai besoin maintenant de porter du fruit. Et le fruit est le résultat du travail du jardin. D'ailleurs, Jésus, vous le voyez, il est en action. Il prend autorité, les esprits partent, il prie pour les malades sont guéris. Il ne va pas se dire, attends, bouge pas, je reviens. Attends-moi 2 heures, ah, mais il faut au moins 2 heures, vu le problème que tu as. 2 heures à 2h30, attends-moi ici, bouge pas. Et il prie pour le premier, il dit, toi, qu'est-ce que t'as? Oula, oula, 3 heures, tu m'attends 3 heures. Vous vous rendez compte, c'est pas possible, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas ça. Mais alors, où Jésus pouvait, lui, mais aussi les disciples, après, par la suite. Parce qu'on parle de Jésus, moi, il n'y a pas mieux que Jésus. Mais si je regarde les disciples qui ont dû eux aussi apprendre, d'ailleurs ils diront, Seigneur, apprends-nous à prier. Ils avaient compris que c'était la clé. Et le Seigneur leur apprend. L'apôtre Paul dira, je prie plus que vous tous. Et je me dis que vu la vie qu'il a eue, il avait intérêt, mais et nous? Est-ce que je n'ai pas intérêt à prendre soin de mon jardin de prière? Et le fruit ne vient que lorsque le travail est accompli. D'ailleurs, le but pour nous, c'est que le jardin de prière produit du fruit, mais il ne le produit que si on le cultive. Si on a un jardin et qu'on l'abandonne, il ne va pas y avoir forcément de fruit. Ça va être du fruit sauvage. Il n'aura pas ce qu'il faut. Et si je prends la parole de Dieu, regardez, Jean chapitre 15, verset 2. Puisque le Père attend du fruit et le Fils met tout en œuvre pour que tout croyant en porte, faute de quoi, attention, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il est retranché. Waouh. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Si tu vas dans le jardin de la prière, tu vas rencontrer le jardinier par excellence, qui va te dire comment prendre soin, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut peut-être retravailler. D'ailleurs, Luc chapitre 13, versets 6 à 9, et il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Un figuier dans la vigne. C'est étrange, mais Dieu est capable de faire des choses étranges. Il vient y chercher du fruit, et n'en trouvant pas. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et regardez les paroles du vigneron, c'est pour ça qu'on a intérêt à avoir le vigneron avec nous. Le vigneron lui répondit, maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, il produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Moi, je vois en ça un message de grâce de la part du Seigneur. Ou encore ce soir, il nous dit, si ton jardin ne porte pas du fruit, tu risques d'avoir des problèmes. Mais moi, je suis là pour t'aider. Peut-être que dans notre vie personnelle, on se dit, Seigneur, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de prier, Seigneur, tu vois, j'ai un agenda. Mais moi, je peux te dire que si tu dégages du temps pour la prière, Dieu dégage tout le reste. Parce que souvent, ton temps est occupé par tout ce que l'ennemi peut mettre en place dans ta vie pour t'empêcher de prier. Mais lorsque tu pries, Dieu dégage tout ce qui ne sert à rien. Et ce qui reste, c'est l'essentiel. Et c'est dans ces choses-là que tu verras du fruit. D'ailleurs, Daniel, c'était un homme quand même super occupé, mais il arrivait à prier 3 fois par jour. Et la parole de Dieu nous dit qu'il avait un esprit supérieur. Qui voudrait un esprit supérieur ? Oui ? Ah ben moi je lève les 2 mains. Si vous voulez faire ceux qui sont ah non, moi j'ai pas besoin, c'est votre problème. Jacques chapitre 5 versets 7 à 8, regardez ce qui était dit. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Qu'est-ce qu'il va chercher le Seigneur ? Ton agenda, il n'en a rien à faire. Tes idées, tes projets, il n'en a rien à faire. Il va chercher le fruit. Et ce fruit, il n'est que le résultat d'une œuvre qu'il accomplit dans ta vie, mais dans laquelle toi, tu es pleinement engagé. On a lu tout à l'heure ce moment où Judas vient chercher Jésus pour le livrer aux religieux. Il connaissait le jardin où Jésus allait prier. Il y avait lui aussi passé du temps dans le passé. Et lorsqu'il s'est laissé gagner par l'ennemi, lorsque l'ennemi a pris place dans son cœur pleinement, il est allé chercher Jésus là où il savait qu'il allait le trouver. Et Jésus n'a pas changé ses habitudes. Judas va recevoir de l'argent. Qu'est-il devenu l'argent de Judas ? Il a voulu le rendre, et les religieux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris l'argent et ils ont acheté un terrain qui était pour la sépulture des gens qui ne faisaient pas partie. Par son acte, Judas, il s'était acheté un jardin. Mais ce n'était plus le jardin de la prière. C'était un lieu d'enterrement. C'était un lieu de mort. Le Seigneur voudrait pas, elle ne veut pas voir le jardin de notre cœur, le jardin qui doit être celui de notre prière, de notre vie de prière, devenir quelque chose de mort, mais quelque chose de vivant, quelque chose de bien soigné, parce que lui souhaite finalement que la bénédiction soit sur nous. Dernière référence, Zacharie chapitre 8, verset 12. Car voici la semence de la paix. La vigne donnera son fruit, la terre donnera ses produits, et le ciel donnera sa rosée. Je ferai hériter de tous ses biens le reste de ce peuple. Amen. Si on vient à la réunion de prière pour travailler notre jardin, on s'est planté. Mais si je prépare mon cœur, si je passe du temps dans la prière, si je passe du temps dans la présence du Seigneur et que je viens à la prière, moi je crois que là le Seigneur veut qu'il y ait du fruit, la guérison, le relèvement, le baptême du Saint-Esprit. Et c'est en cela que Dieu nous attend. Alors je voudrais vraiment encourager chacun de nous à travailler notre jardin de la prière. Alors ne vous faites pas un jardin style chinois, avec le petit sable, avec le petit râteau. C'est pas ça, vous prenez un râteau là, tout court. Mais passons du temps dans la présence du Seigneur. Dans les prochains mardis, je vais rester un peu dans une thématique un peu comme ça, parce que je pense qu'on a besoin aussi peut-être de retravailler notre manière de prier, notre prière personnelle à la maison, notre prière ensemble. Mais ce soir, nous allons déjà rester sur ça en se disant, Seigneur, aide-moi à prendre soin du jardin de prière de ma vie. Seigneur, donne-moi de voir du fruit dans ma vie, de voir du fruit de ma prière, Seigneur, de voir. Mais parce que j'ai pris du temps avec toi et ce qui y ressort, c'est pas parce que j'ai prié, mais parce que j'ai passé du temps dans la présence du Très-Haut. Et que l'Esprit de Dieu soit celui qui anime nos prières, dirige nos prières, conduit nos pensées, que ce soit des prières spirituelles. On n'a pas besoin de prières charnelles, on n'a pas besoin d'expliquer à Dieu ce qu'il sait déjà mieux que nous. Même sur moi-même, c'est inutile que je lui explique, il me connaît mieux que moi-même. Mais je peux lui dire, Seigneur, ce soir j'ai besoin de ton secours, et il saura quoi faire. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, encore parce que ta parole nous encourage, Seigneur, à découvrir des choses, à réfléchir, Seigneur, à revoir nos positions, à revoir nos priorités, à revoir, Seigneur, aussi peut-être nos fonctionnements les plus intimes, les plus personnels, Seigneur. Où finalement, on vient dans la prière pour les choses extérieures, alors que la prière doit être celle qui soigne déjà l'intérieur. Et après, le reste, il va suivre parce que toi, tu es le Dieu de la grâce, de la miséricorde. Seigneur, nous croyons aussi dans cette œuvre que tu fais pour restaurer. Là, au Seigneur, où il n'y a plus de fruits depuis un moment. Seigneur, merci d'être patient envers nous, patient avec nous, patient pour nous, Seigneur. Merci parce que tu ne veux pas tout de suite couper, tu ne veux pas juste passer à autre chose, Seigneur, mais tu as encore ce désir de donner, d'accorder du temps, d'accorder un délai, d'accorder des soins, d'accorder, Seigneur, encore de ta patience, de ton amour, de ta volonté pour nous, Seigneur. Je te prie pour chacun de nous, Seigneur, mais nous te prions aussi pour ceux qui peut-être ont abandonné ce jardin, ils l'ont laissé, ils l'ont délaissé, Seigneur, et leur vie de prière ne se résume qu'à une liste de courses. Seigneur, nous voulons et nous désirons, Seigneur, à l'image de celui qui est l'exemple parfait, Jésus-Christ, nous aussi vivre des choses incroyables, vivre des choses glorieuses, vivre, Seigneur, des choses qui font partie, Seigneur, de tes projets et dans laquelle tu nous as inscrits. Si tu nous as placés dans cette ville, c'est pour que nous puissions prier pour cette ville. Seigneur, si tu nous appelles encore ce soir à prier pour les uns et les autres, nous voulons voir ta gloire se manifester, Seigneur, pour ceux qui ont des besoins, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont dans la souffrance. Seigneur, qu'il y ait un fruit dans la prière, un fruit qui t'honore, un fruit qui te glorifie, Seigneur. Nous voulons pas être là juste à enlever les mauvaises herbes, Seigneur, une fois par semaine, mais nous désirons, Seigneur, que ce jardin soit toujours prêt, propre et portant du fruit pour la gloire du Seigneur. Et là, Seigneur, toi, tu envoies cet arrosage du ciel, Seigneur. Là, tu envoies ta bénédiction. Nous avons besoin de ta bénédiction, Seigneur. À toi, honneur, gloire et puissance. Amen.